La foi nos 35. La foi, c'est connaître la volonté de Dieu. Le 20 septembre 2017. Brian Kozurek, pasteur. Ce soir, nous examinerons comment notre foi se fonde sur la connaissance et la compréhension de la volonté de Dieu. Dans son sermon La Parole parlait Esther la semence originelle 171. Frère Branham nous dit que notre foi doit se fonder sur la parole de Dieu, et on y trouve la connaissance de la volonté de Dieu que dans sa parole. Ce qu'il y a là, c'est la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et notre foi repose là-dessus, sur ce que Dieu a dit. Néhémie, cherchez pas à l'interpréter. Dites-le simplement comme elle le dit. N'ajoutez aucune interprétation. Maintenant, ce soir, je voudrais parler de la foi et comment elle doit être fondée sur une compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'on nous dit dans Hébreux 11.6 « Sans la foi, la révélation, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. » Donc non seulement notre foi est fondée sur notre croyance, mais aussi sur la compréhension que Dieu récompense notre croyance. Maintenant, le mot croire est défini comme avoir confiance en la véracité, l'existence ou la fiabilité de quelque chose, mais sans preuve absolue que l'on a raison de le faire. Par conséquent, avoir la foi est essentiel à l'expérience chrétienne avec Dieu, est nécessaire pour être agréable à Dieu. En d'autres termes, la foi est une assurance et une confiance en Dieu et en ce que Dieu dit dans sa parole. Et donc sans la foi on nous dit que sans la foi, nous Néhémie pouvons être agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que si vous Néhémie faites pas confiance à quelqu'un, c'est que vous n'estimez pas cette personne et vous Néhémie croyez pas qu'elle ait raison. Par conséquent, si nous devons recevoir, quoi que ce soit de Dieu, nous devons d'abord avoir la foi et croire en Dieu pour ce que nous cherchons. Mais la raison pour laquelle les gens n'ont pas la foi pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est que bien des fois, ils n'y sont même pas certains, au départ, que ce qu'ils demandaient est bien la volonté de Dieu. Ce pourquoi ils n'y sont pas sûrs de ce qu'est la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils n'y savent pas ce qu'est la volonté de Dieu. Alors, afin d'avoir la foi, nous devons d'abord savoir ce qu'est la volonté de Dieu concernant la chose pour laquelle nous souhaitons avoir la foi. Avant qu'on puisse avoir la foi pour toutes circonstances dans notre vie, nous devons d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous dans le domaine où nous cherchons la foi, que ce soit pour la guérison ou pour les finances, ou pour d'autres bénédictions. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10.17. Par conséquent, ce soir, nous allons examiner ce que nous pouvons faire dans notre vie pour augmenter notre foi. Nous devons comprendre que Dieu a placé plus de 800 promesses dans sa parole pour notre bénéfice et tout ce qu'il faut pour recevoir ces bénédictions. C'est que nous sachions qu'elles sont là et que Dieu veut que nous les ayons. Vous voyez, nous devons avoir la pensée de Christ en nous, et nous devons connaître la pensée de notre Père et sa pensée doit être en nous en tant que fils et nos pensées doivent s'harmoniser avec l'Esprit de Dieu si nous voulons recevoir ce que Dieu a dans sa pensée pour nous. Permettez-moi de reformuler cela pour simplifier ce que je dis. Si vous Néhémie ne savez pas quelle est la volonté de Dieu, alors vous Néhémie ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu selon sa volonté, parce que vous Néhémie connaissez tout simplement pas sa volonté. Donc, le tout premier principe auquel nous devons arriver pour édifier notre foi est de connaître ce que Dieu a dit de ce dont nous avons besoin. F.R. Franc français, Bosworth a dit dans son ouvrage Christ, le guérisseur, pour ceux qui ont besoin de guérison, Avant que l'on puisse avoir une foi ferme pour la guérison de notre corps, nous devons nous débarrasser de toute incertitude concernant la volonté de Dieu dans ce domaine. Une foi vivante, Néhémie, peut pas aller au-delà de notre connaissance de la volonté révélée de Dieu. Avant de tenter de mettre notre foi en action pour obtenir une guérison, il nous faut connaître ce que les Écritures enseignent à ce sujet, à savoir que c'est tout autant la volonté de Dieu de guérir le corps que de sauver l'âme. Et cela vaut pour toutes les autres promesses que Dieu nous a données dans sa parole qui est l'expression de sa volonté. Or, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.11 lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, à moins que vous ayez l'esprit de Dieu en vous, il vous est littéralement impossible de comprendre les choses de Dieu et donc, de vous approprier la foi de Christ dans votre vie. Maintenant, concernant la foi en la parole de Dieu, dans Romains 10.17 Paul nous dit comment nous approprier la foi. Il a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fr. Branham est allé plus loin et a prêché un sermon intitulé, Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la foi vient en entendant la parole de Dieu, ce que Dieu en dit. Alors si vous entendez et reconnaissez que c'est la parole de Dieu, alors vous n'aimez vous en approprier qu'en agissant sur ce vous entendez. Donc, tout commence par connaître si Dieu a fait une promesse ou pas, car s'il n'a pas fait de promesse, alors vous pouvez aussi bien laisser tomber. Mais s'il a fait une promesse dans sa parole, alors nous devons connaître ce qu'il a dit à propos de cette promesse. Frère Branham nous a enseigné que la foi commence dans la pensée, puis lorsque nous la recevons dans le cœur, alors Dieu peut descendre et oindre cette foi et cela devient une révélation dynamique. Vous devez donc d'abord remplir votre pensée de sa parole. La parole de Dieu doit d'abord venir à la pensée, avant de s'installer dans l'âme. Alors, nous voyons que, premièrement, nous avons une foi ou une reconnaissance mentale de la parole de Dieu. Alors quand Dieu a sa parole dans notre pensée par son Saint-Esprit, elle descend dans notre âme et devient une foi spirituelle ou dynamique. En fait, Frère Branham dit dans le message Les noms blasphématoires d'hymne 4 novembre 62 M132 venant à votre foi mentale. Juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle Néhémie reconnaît que la parole. Maintenant, ce soir, je veux vous parler de comment vous approprier la foi dans la parole de Dieu, parce que beaucoup de gens disent qu'ils croient mais quand il s'agit de la foi, c'est plus que de simplement croire. Vous devez entrer sinon sa Néhémie vous appartient pas. Vous devez l'entendre, et la foi vient en entendant la parole de Dieu. Donc, pour vraiment savoir si vous l'avez entendu ou pas, vous devez reconnaître ce que vous avez entendu. Parce que beaucoup de ceux qui entendent Néhémie reconnaissent ni Néhémie perçoivent ce qu'ils entendent. Alors vous devez l'entendre ce qui signifie la comprendre. Puis vous devez la reconnaître, et le mot reconnaître signifie un. Savoir que c'est quelque chose qui a été perçu auparavant, reconnaître un visage. 2. Connaître ou identifier son expérience ou ses connaissances passées. Alors, nous devons nous demander, si reconnaître est en rapport avec savoir ou connaître à cause d'une expérience passée. Alors nous devons nous demander le passé de qui? Parce que la foi est la substance des choses qu'on espère, mais cependant, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8.24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais examinons cette pensée dans Hébreux 11.1. Or la foi est-elle la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'y voit pas. Ainsi la foi est-elle la substance. Maintenant, afin de comprendre cela, nous devons nous demander quelle est-elle cette substance que nous appelons la foi? Est-elle la matière comme en science et en physique? Est-elle ce que le mot substance signifie? Le dictionnaire anglais définit la substance comme un A. Ce qui a de la masse et occupe de l'espace. Matière. B. Un matériau d'une nature ou d'une constitution particulière. Mais ce n'est-ce pas ce que cela signifie? Alors examinons ce que le dictionnaire définit d'autre comme étant la substance. 2. A. Nature essentielle. Essence. Maintenant, c'est-ce plus comme ça. Par conséquent, si la foi est-elle la nature de quelque chose ou disons de quelqu'un, ou la nature essentielle, alors c'est-elle l'essentialité et la nature intrinsèque de Dieu. Et je peux le prouver par la parole de Dieu. Le mot grec pour substance ou la foi est-elle la substance est-elle le mot grec hypostasis, qui signifie littéralement, essence, confiance, assurance et personne. En d'autres termes, ce mot hypostasis est-elle traduit ici comme le mot substance et est-elle le même mot qui est-elle traduit comme le mot personne en référence à Dieu. Hébreux 1.3 et qui, étant le rayonnement de sa gloire et l'image exprimée de sa personne, hypostasis, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc Jésus étant l'image exprimée de la personne même de Dieu, il est l'image exprimée de la substance même de Dieu, ce qui est la foi, exprimant la pensée même de Dieu. C'est-elle pourquoi la substance qui est-elle ce qu'est-elle la foi n'est-elle pas la substance comme si c'était de la matière, mais c'est-elle l'essence de qui et de ce qu'est-elle Dieu. La foi est-elle le rayonnement ou l'expression même de la volonté divine de Dieu. Le même mot hypostasis est-elle également traduit par le mot assurance, comme nous le voyons dans Hébreux 3.14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Remarquez, ce n'est pas retenir le commencement de l'assurance, mais retenir notre assurance. Notre assurance se réfère à notre être et à notre confiance. La foi est liée à la confiance. Et vous faites confiance aux gens, pas aux choses. Lorsque vous faites confiance à vos freins, vous n'y faites pas confiance au métal ou aux matériaux, mais vous faites confiance aux personnes qui les ont conçus et montés. Nous n'y plaçons pas notre confiance dans les choses, mais dans les gens. Et nous voyons donc que la foi est la substance. La foi est la personne en qui nous espérons. Et Christ est notre espérance. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, Tite 2.13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Thessaloniciens 2.19 qui est-elle? En effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, dans la présence de notre Seigneur Jésus, lors de sa parousia? Thessaloniciens 1.3 nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Colossiens 1.27 qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Doxa. Christ en vous en étant baptisé par un seul esprit dans un seul corps restait à l'espérance ou la ferme attente de recevoir les doxas de Dieu, ses opinions, ses valeurs et ses jugements. I Corinthiens 15.19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, la foi est la substance de Christ en qui nous espérons. Donc, la foi est liée à la personne de Christ, et puisque cette substance est aussi la personne, alors la foi est la nature et l'essentialité de qui et de ce qu'est Dieu. Maintenant, examinons cela de plus près. Si la foi est la substance ou la personne de Christ, alors la foi authentique, n'est et ne repose pas sur ce que nous pensons, mais sur ce que Dieu pense. Alors, la foi consiste à connaître ce que Dieu a dit. Puis, pour s'approprier la foi, nous devons d'abord trouver ce que Dieu a dit concernant toute promesse divine, puis reconnaître sa volonté concernant cette promesse divine, et ensuite nous devons les planter comme des semences dans notre pensée, et les arroser par sa parole. Et nous le faisons en les récitant encore et encore jusqu'à ce qu'elles s'installent dans notre cœur. Puis quand cela se produit, la nature de cette semence parole prend le relais et fait ce qu'elle était censée faire. La nature de la semence parole de Dieu, prend le relais. Dans Galates 3.13 nous lisons, Christ nous a, au passé, rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Remarquez que la parole de Dieu nous parle des promesses divines, comme si elles étaient déjà accomplies. Dieu les place au passé, pas au futur. Et notre foi se manifeste lorsque nous faisons la même chose que Dieu, en plaçant ses promesses au passé, comme si elles existent déjà. Dieu veut que nous nous approprions du temps passé de sa parole, concernant n'importe quelle promesse divine. Car ce que Dieu pensait avant les fondations du monde est déjà achevé dans sa pensée, comme si cela était déjà matérialisé. Quand Dieu nous fait une promesse au temps passé, il s'attend à ce que nous fassions de même. C'est avoir la pensée de Dieu concernant cette promesse. Vous, Néhémie, pouvez pas vous approprier quelque chose qui est dans le futur. Vous, Néhémie, pouvez vous approprier que ce qui a déjà été donné. Le mot s'approprier signifie, prendre possession de ou utiliser exclusivement pour soi, souvent sans permission. Pourquoi devez-vous demander la permission alors qu'il vous l'a déjà promis? Donc, les mots si c'est ta volonté, au Seigneur montre que vous Néhémie, croyez pas que c'est sa volonté pour vous. Et par conséquent, cela annule sa parole promise pour vous par votre incrédulité. Si je vous donne quelque chose, vous n'avez pas besoin de ma permission pour utiliser ce que je vous ai donné. Et Dieu Néhémie s'attend pas à ce que nous contrecarrions sa promesse par les mots, si c'est ta volonté ô Seigneur. Ce Néhémie sont pas des mots qui s'approprient la foi, ce sont des mots qui affaiblissent la foi, qui la rendent inefficace. Dieu veut que vous connaissiez sa parole, et quand vous la connaissez et que vous savez que c'est sa volonté pour vous de l'obtenir, alors c'est déjà fait. Appropriez-vous ensuite cette promesse. Prenez-en possession, revendiquez-la comme étant vôtre, utilisez-la exclusivement. Voilà ce que signifie s'approprier la foi. Les choses cachées appartiennent à Dieu mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. Donc, ce que Dieu vous a donné n'aimez laissez personne vous le ravir. Jésus n'a parlé quand il a dit, mon Père me les a donnés. Et donc, personne n'aimez peut les ravir de ma main. Dans Marc 11.24 Jésus nous a enseigné Sester pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez qu'elles sont à vous. Croyez d'abord la promesse que Dieu vous a donnée, puis croyez qu'il veut que vous l'ayez, et croyez ensuite que vous l'avez déjà reçu. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez vous approprier cette promesse et en faire usage pour vous-même. Il nous faut seulement commencer à le louer et à le remercier pour ce qu'il nous a déjà donné. L'agriculteur doit planter sa semence dans le sol, et avant de pouvoir recevoir sa récolte, il doit avoir l'ensemencement, au temps passé, de la semence dans une bonne terre. Mais une fois que cette semence de la parole a été plantée dans votre pensée et dans votre cœur, alors il vous suffit de chercher la récolte à venir. Et elle viendra au bon moment. Et même cela n'estère pas un mystère. Le moment de l'ensemencement et de la récolte n'estère pas un mystère pour quiconque a étudié et comprend l'ensemencement et la récolte. Le fermier sait que quand il sème, il moissonnera. Ainsi, il sème dans une certaine saison sachant qu'il récoltera au bon moment après que la semence soit entrée en gestation et a bouclé son cycle. La semence humaine prend 9 mois, celle du cheval 11 mois et celle de l'éléphant 22 mois. Toutes les semences ont un cycle de temps pour l'ensemencement et la récolte. Dans Jean 12.24 Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est terre tombé en Tarnem meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Croire ce que Dieu a dit et rendre à Dieu ce qu'il a dit, c'est ainsi que nous plantons la semence de sa parole dans le bon sol. Et quand nous faisons cela, tout ce qu'il nous faut faire, c'est s'attendre à ce que la loi de la reproduction matérialise la semence parole que nous avons plantée. Vous vous rappelez quand Lazare et Gisèle en train de pourrir dans cette tombe? Quelles étaient les paroles de Jésus concernant ces circonstances? Il a dit, Jean 11.41-42 Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Remarquez qu'il parle au passé. Il avait déjà prié pour la résurrection de Lazare. Il avait déjà semé la semence de la parole dans un bon sol. Maintenant, il n'est mis fait que reconnaître ce qu'il a déjà semé. Examinez le verset suivant, 42 pour moi. Je savais, au passé, que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et Jean a dit dans Jean 5.14 nous avons auprès d'eux en lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remarquez ce qu'il a dit ici, et c'est l'assurance que nous avons en lui. Vous y voilà. Notre confiance est en lui. La foi est la substance. La foi est la personne. La foi est l'assurance que nous avons en lui. Ce qu'il a déjà pensé et ce qu'il a déjà dit, c'est déjà fait. Salomon l'a dit ainsi, Ecclésiaste 3.15 ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. La foi peut alors se réjouir avant même de voir un changement de circonstances. Parce que la foi n'est mise regarde pas aux circonstances, la foi regarde la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, alors la foi considère que c'est fini. Tout est fini. C'est fait. La foi refuse même de regarder tout ce qui est contraire à la promesse. L'apôtre Paul, en parlant d'Abraham, a dit dans Romains 4.16 Sester pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée, à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, et ce pourquoi Sester par la grâce. Sester parce que Sester déjà fait dans la pensée de Dieu avant même vous n'ayez le demandiez. Selon qu'il Esther écrit, 17 je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il Esther notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui n'aimis sont point comme si elles étaient. 18 espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, au passé, telle sera ta postérité. 19. Et, sans faiblir dans la foi, il n'y considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. 20. Il n'y douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 22. Esther, pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23. Mais ce n'est-ce pas à cause de lui seul qu'il Esther écrit que cela lui fut imputé. 24. S'est-ce encore à cause de nous? À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur. 25. Lequel a été livré pour nos offenses, et Esther ressuscité pour notre justification. Maintenant, écoutez, voilà ce que j'essaie de dire. La foi regarde ce qui Esther déjà fait dans la parole de Dieu et sait que la parole de Dieu Esther la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'aurait pas promis s'il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Par conséquent, si Dieu l'a dit, s'Esther comme si c'était déjà fait. S'Esther fini. La foi prend Dieu au mot. La foi, s'Esther croire ce que Dieu a dit avant d'en voir la manifestation. La foi Esther le sixième sens et elle n'a pas besoin des autres sens pour s'approprier la promesse. Je n'ai pas besoin de vous voir pour savoir que vous êtes ici dans cette église. Je n'ai pas besoin de vous entendre pour savoir que vous êtes en vie sur votre siège en ce moment. Je n'ai pas besoin d'aller physiquement vous toucher pour savoir que vous existez. Je n'ai pas besoin de vous sentir votre odeur pour savoir que vous êtes ici. Et je n'ai pas non plus besoin de goûter. Alors, pourquoi comptons-nous si fortement sur nos 5 sens quand il s'agit de croire ce que Dieu a dit? En fait, vous ne devez compter sur aucun de vos 5 sens pour croire ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit à Marie qu'elle devait devenir la mère de son fils, elle n'a pas dit, « Je ne peux pas croire ce que j'entends. » Elle a dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ce que tu as promis. » C'est Esther ça. Entendre, reconnaître et agir d'après la promesse de Dieu. C'est Esther ça s'approprier ce que Dieu a dit. Écoutez, nous avons aussi vu descendre du ciel un ange du Seigneur, se tenir devant des groupes d'hommes, et nous dire que nous sommes l'épouse élue de Jésus-Christ. Et nous sommes ceux qui seront semblables à l'image du Fils premier-né. Maintenant, ma question Esther est la suivante. Vous l'avez entendu, mais avez-vous reconnu que Esther est une promesse de Dieu pour vous personnellement? Si c'est le cas, alors avez-vous commencé à agir en conséquence? Quand Jésus Esther allait à Gethsémané, frère Branham a dit que Dieu attendait que son fils Jésus se décide. Frère Branham a dit que la croix n'était pas la victoire. Mais à la bataille de Gethsémané, c'est là où Jésus a reçu la victoire. Car n'eût été la foi qu'il a reçue du Père, il se peut fort bien qu'il n'y ait pas eu l'expérience du calvaire. Car après avoir lutté avec sa pensée et sa volonté, cette nuit-là, il a docilement déclaré, « Père, ma volonté, c'est que tu retires cette coupe de moi, mais néanmoins, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il n'a jamais dit si telle était ta volonté, mais il a dit, non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. Et c'était à la victoire. Juste là. Quand Jésus a abandonné sa volonté pour prendre la volonté du Père. La communion jeudi 18 avril 57-29. Or, si Dieu n'a pas épargné à son propre fils ce test cruel, alors il n'épargnera ni vous ni moi de ce test cruel. Et Jésus était ici et il a été confronté au plus grand test qu'il n'eût jamais connu. Gethsémané se trouvait juste devant lui, là où ce test unique, final et tout suffisant devait venir. Alors que le fardeau du monde entier reposa sur ses épaules bénies. Il n'y avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à part lui. 30 Et de savoir que tous les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs reposaient sur cette décision. Et c'était l'une des plus grandes victoires que Christ n'ait jamais remportées ou par lesquelles il a prouvé sa grande qualité de Messie. Lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'était la plus grande victoire qu'il eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient tout autour de lui pour le tenter et l'éprouver. 31 Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe sa place dans notre cœur, c'est la chose la plus glorieuse que d'être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l'argent et l'or de ce monde. Ainsi, nous sommes. Devrions être reconnaissants. Une conférence 20-25 novembre 60-43 Alors, Moïse a crié à l'Éternel et l'Éternel a dit, lève-toi et avance. Et quand Moïse s'est allé droit devant lui et qu'il a mis son pied dans l'eau, et alors, la mer rouge s'est ouverte en se retirant, Israël a traversé vers une grande victoire. Ils avaient tenu une conférence. C'est ainsi qu'il nous faut toujours nous y prendre, tenir des conférences. Eh bien, j'aimerais parler d'une autre très vite. Il y a eu une conférence. Il y en a beaucoup dont nous pouvons parler, mais n'omettons absolument pas celle-ci. Il y eut une fois la conférence de Gethsémané. Quand cela devait avoir lieu, après qu'une vie victorieuse eut vaincu la maladie, vaincu tout dans le monde, il arriva à Gethsémané, et le Père devait vérifier pour voir s'il tenait vraiment à aller jusqu'au bout de cela ou pas. Ainsi, vous voyez, quand Jésus regardait la promesse de Dieu, que Dieu avait cet agneau qui, aux yeux de Dieu, a été immolé avant les fondations du monde, et quand il est rentré dans ce rôle, alors il pouvait dire à la croix, tout est accompli. Pourquoi nous n'y sommes pas une dénomination? Psaume 27 septembre 58, 222 Or, la Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement, car certains parmi vous n'y viendront pas ici demain pour entendre la fin. La Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Est-ce vrai? Quand fut-il immolé? Dès la fondation. Ça. C'est le monde. C'est l'ester composé d'atomes fragmentés, retirés du soleil là-bas. Avant de devenir cela. Alors, avant qu'un atome n'ait mis se fragmente dans le soleil, si c'est un météore détaché du soleil, ce qui ferait 100 milliards de milliards de milliards de milliards d'années avant qu'il y ait un météore de lumière, Christ fut immolé. Quand la grande pensée de Dieu s'arrête sur une chose, c'est un produit fini. Quand Dieu dit, que cela soit, c'est déjà fini, même si cela a pris 100 milliards d'années avant de s'accomplir, c'est déjà fini aussitôt qu'il l'a prononcé. Et quand l'agneau fut immolé dès la fondation du monde, la même Bible, le même esprit écrivit et dit que nos noms furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. 223 Ainsi, l'homme qui écrivit le cantique, il y a un nouveau nom écrit dans la gloire, avait de bonnes intentions, mais il n'était pas scripturaire. Voyez-vous, ce nom fut écrit dans la gloire quand le monde, dès la fondation du monde, quand l'agneau fut immolé, nos noms furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis vous dites, qu'en est-il de moi, frère Brian? Tout ce que je peux dire, mes frères et sœurs, c'est, lisons Éphésiens 1, pour terminer. Tout est là, et c'est tout autant fini, dans la pensée de Dieu, que pour l'agneau. La question est, le croyez-vous? Pouvez-vous vous le voir là? Croyez-vous que cela vous concerne personnellement? Je peux vous dire que je le crois. Éphésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Car en lui Dieu nous a, il l'a déjà fait. Alors, aux yeux de Dieu, c'est fini en lui, voilà votre vie éternelle. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons, c'est à dire que Dieu a déjà mis la chose en route. Il a ordonné que vous soyez saints et irrépréhensibles dans sa présence, saints nous ayant, au passé, prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous n'avez donc pas à lui demander si c'est sa volonté. Vous savez que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Si c'est la louange de la gloire de sa grâce, cela signifie maintenant, avant même de le voir matérialiser, nous devrions louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait, qu'il nous a, au passé, accordé en son bien-aimé. Ce n'est pas vous qui vous rendez acceptable. Il vous a rendu acceptable pendant que vous étiez en lui, avant qu'il y ait émis, serait-ce qu'un atome pour façonner le monde. Il l'a déjà fait. Alors commencez à planter cette semence. Commencez à le louer pour ce qu'il a déjà fait. Donc, Néhémie, regardez pas les circonstances. Regardez sa promesse. C'est en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, huile que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, neuf nous faisant, au passé, connaître le mystère de sa volonté. Donc, vous connaissez sa volonté. Ce n'est plus un mystère. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, et il est si content de nous avoir fait connaître sa volonté par son cri, par le message qu'il nous a adressé. 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Remarquez que nous avons déjà obtenu un héritage. Comment? En ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Remarquez encore qu'il vous dit que tout cela est sa volonté et il est si heureux de nous faire part de sa volonté pour nous. Et la réponse que nous devrions avoir, c'est de le louer. 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Puis il nous dit au verset 13 comment tout cela doit se produire. Mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans cela ce matin. Mais nous savons qu'il nous donne le gage de notre héritage, quand nous recevons le baptême de son Saint-Esprit. Puis au verset 17-20 il nous dit que lorsque Dieu lui-même descend avec un cri, c'est pour nous donner la pensée même de Dieu qui nous prépare pour le placement des fils. Car nous n'aimons pouvons pas être adoptés et placés comme fils et recevoir l'héritage jusqu'à ce que nous ayons la pensée de notre Père. Alors, il descend avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même afin que nous, en tant que fils, puissions recevoir la pensée de notre Père afin que nous puissions connaître sa pensée et connaître sa parole et sa volonté et ainsi n'aimons faire que ce que sa volonté désire. Et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père, et bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, c'est sa grande apparition, parmi nous en cette heure, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et en le voyant, tel qu'il est vraiment, nous héritons son image et devenons, comme lui. C'est son plan. C'est sa volonté. Vous vous y voyez? Alors, pouvez-vous y entrer? Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.